L'entraînement pour vivre une vie stratégique vous présente la série Surmonter les blessures de nos vies et découvrir la joie de vivre une vie stratégique par Dennis Peacock. Traduction Maya Cortet. La première leçon s'intitule Hériter le cœur du Père. Pour commencer, nous espérons que des personnes vont utiliser ce que nous partageons ici pour des études, des partages bibliques, par exemple dans les cellules de maison. Ce que je partage avec vous, c'est l'expérience de 25 ans de vie en tant que pasteur. Durant ces années, j'ai rassemblé les choses que j'ai vues faire et qui ont porté du fruit. Il y a beaucoup de théories qui vous disent comment on peut grandir en Christ. Personnellement, je ne suis pas intéressée par la théorie ou par des théories, mais par les exemples et par le travail. C'est pour cela que je vais partager avec vous des choses qui marchent, qui ont marché, qui ont porté du fruit dans ma vie. Parce que je vais partager aussi des choses de ma vie qui ont déjà aidé d'autres dans leur vie. Votre vie peut être changée. Parce que nous allons partager durant ces prochains jours et je vous promets que l'Esprit Saint va vous parler. Mais il est très important que vous compreniez que vous n'allez pas comprendre ces principes en les écoutant une seule et unique fois. Je vous encourage donc à prendre des notes et à retravailler cet enseignement. Il y a des moments où nous allons dire beaucoup de vérités en très peu de temps. Certains points importants que j'ai déjà eu l'occasion d'enseigner auparavant ont évolué, car moi aussi je vis la transformation. J'ai encore grandi, et c'est pour cela que ça a encore évolué. Je donnerai donc 8 enseignements. Ils sont tous là pour nous donner une vision générale de notre vie en Christ. Le thème général de ce séminaire va parler de 3 points essentiels. Le premier, vous avez été créé pour hériter le cœur du Père. Vous n'avez pas été créé pour aller au ciel. Vous n'avez pas été créé pour être un gentil petit garçon chrétien ou une gentille petite fille chrétienne, mais pour quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Vous avez été créé pour hériter le cœur de Dieu. Cela signifie penser comme le Père pense, avoir des sentiments, les sentiments qui sont en Dieu, avoir ses buts qui deviennent les nôtres, sa vision qui devient la nôtre, afin que nous puissions vraiment acquérir le cœur de fils de Dieu, de fils et de fille de Dieu. Pour vous les femmes, quand je parle de la filiation, ça ne concerne pas que les hommes, ça concerne chaque être humain. Il est évident que Dieu a une part féminine en lui, sinon vous ne seriez pas là. Cependant, vous de même que les hommes, vous avez été créés à son image. Deuxièmement, de quelle manière surmonter les blessures et les souffrances de notre vie? Tout au long de notre vie, nous accumulons beaucoup de blessures, de souffrances. Nous parlerons de la question « Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans la vie ?» et « Comment Dieu veut-il que nous gérions ces souffrances ?» Parce que si nous ne surmontons pas les blessures et les souffrances dans la vie, nous dévions, nous sortons du terrain de bataille et nous devenons absolument inefficaces. Nous devenons amers, nous restons coincés, nous ne pouvons plus grandir dans cette situation. Et dans cette situation aussi, il devient difficile d'aimer, de faire confiance. Tous les êtres humains doivent faire face aux blessures et à la souffrance. Un grand nombre d'entre vous ont peut-être même vécu de très grandes blessures et souffrances. Personnellement, j'ai aussi traversé des épreuves. Alors que je faisais de la relation d'aide, j'ai entendu parler de tellement de souffrances différentes, des personnes qui ont eu le cœur brisé par des divorces par exemple, qui ont été violées, enfin des souffrances inimaginables. Une chose est vraie, pour toutes ces souffrances, si nous n'arrivons pas à les gérer avec succès, alors nous arrêtons de grandir et elles nous empêchent même de vivre pleinement. La question est donc, comment surmonter les blessures et les souffrances de la vie? D'abord, cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de blessures dans nos vies, mais vous allez devenir de plus en plus habiles pour les gérer de manière biblique. Troisièmement, vivre stratégiquement. Le troisième concept important que nous allons partager, c'est une stratégie ou une manière stratégique et biblique de vivre. Surmonter les blessures et les souffrances de la vie pour entrer dans la victoire avec Christ et vivre dans la joie de cette victoire en Christ. Il y a très peu de personnes qui vivent de manière stratégique. La plupart des gens vivent jour après jour, certains même heure après heure. Mais Dieu ne vit pas comme cela. Jésus-Christ a été décrit comme l'agneau de Dieu qui a été offert bien avant la création du monde. C'était prévu par Dieu. Dieu n'entreprend rien sans l'avoir prévu longtemps à l'avance. Et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous commençons à penser comme il pense. C'est ainsi que nous héritons le cœur du Père. Dieu veut partager avec nous la manière dont il vit. Nous ne saurions pas comment Dieu vit si nous ne pouvions pas voir comment Jésus vit, parce que Jésus est pleinement homme en même temps que pleinement Dieu. Jésus nous donne une image parfaite de la manière dont Dieu vit. Il nous dit dans Jean 14, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Donc Jésus est venu nous montrer comment vit le Père. Nous allons aussi parler des cadeaux, des dons que Dieu nous a donnés. Nous utiliserons particulièrement trois références bibliques. La première se trouve dans Matthieu 16, les versets 18 et 19. Je me permets de paraphraser. Jésus éprouve la révélation que ses frères ont de lui. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je pour eux? Pierre lui répond, « Tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Tu es béni, tu es heureux, Simon, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais le Père qui est dans les cieux. Et moi je te déclare, sur le roc, sur cette pierre de ta confession, je construirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Aucun de nous n'a jamais été attaqué par une porte. Ou bien, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà une fois eu une porte qui lui a sauté dessus? Non, les portes de l'enfer doivent être attaquées par la communauté chrétienne. Ceci signifie que nous devons vivre notre vie de manière offensive et non sur la défensive. J'ai voyagé dans le monde entier depuis de nombreuses années et voilà le rapport que je vous donne. Il n'y a pas beaucoup de croyants qui vivent la vie chrétienne de manière offensive. La plupart des croyants vivent comme les non-croyants. Peut-être que nous ne nous saoulons pas, que nous ne prenons pas de la drogue, peut-être que nous ne forniquons pas. Mais lorsque l'on regarde à la manière de vivre des croyants en général et des non-croyants, il n'y a quasiment pas de différence. C'est pourquoi il est si difficile de rendre témoignage à des non-croyants. Ils ne voient pas la différence entre eux et nous. Nous voulons qu'ils lisent nos traités, mais eux lisent l'expression de notre visage, notre manière de vivre. Et nous, nous avons envie de dire, non, 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 ne lis pas sur moi. Lis juste le traité parce que je ne veux pas que tu vois que j'ai les mêmes blessures non cicatrisées que toi dans ma vie. Le fait que nous ne commettions pas les mêmes péchés que les non-chrétiens ne les impressionne pas du tout. Les musulmans ne boivent pas, les mormons ne fument pas, et les témoins de Jéhovah sont des témoins beaucoup plus convaincants et zélés que beaucoup de croyants. Alors quelle est la différence? Dieu veut que nous expérimentions la même vie, la même plénitude de vie que lui. C'est la raison pour laquelle il nous a sauvés. Prenons encore un autre verset ensemble dans 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Combien d'entre vous s'identifient avec moi quand je dis que Dieu dit des choses vraiment étranges, spéciales? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'un ou à l'autre d'argumenter avec Dieu? Parfois je dis à Dieu, avec tout le respect que je te dois, mais alors là, il me semble que t'es un peu fou. Je fais cela quelquefois. Pour le moment, aucun éclair ou tonnerre ne m'a détruit parce que je crois que Dieu veut que nous soyons honnêtes avec lui. Et puis, de toute façon, il connaît nos pensées secrètes. Peut-être penses-tu que si tu ne le dis pas, Dieu ne le sait pas. Mais il sait tout. Dieu sait même ce que tu penses avant même que tu ne le penses parce qu'il te connaît de manière très complète. mieux que tu ne te connais toi-même. Nous verrons encore une grande vérité ensemble, c'est-à-dire que les habitudes ne sont pas mauvaises en soi. Pourquoi est-il difficile d'obéir au commandement de Dieu? Parce que tu dois mettre le commandement ou les commandements de Dieu en pratique jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude. Lorsque tu as appris à obéir, cela devient un réflexe. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tu as ou auras l'impression que ça n'utilise plus d'énergie parce que c'est devenu une habitude, une partie de ta nature. À moins que quelque chose ne tourne pas rond avec ton corps, la respiration n'est pas mauvaise. Elle ne nous fait pas mal. C'est un même exemple. Combien d'entre vous prient le matin en demandant au Seigneur « Aide-moi à respirer aujourd'hui ?» Non, nous n'en avons pas besoin. Et ce soir, à la maison, nous n'allons pas prier ainsi. « Seigneur, aide-moi, accorde-moi de pouvoir dormir. » Parce que normalement, ce n'est pas quelque chose de difficile. Je peux dire en vous regardant que le fait de manger n'est pas difficile pour vous. La plupart d'entre vous n'ont pas besoin de se forcer à manger en disant « Oh non, encore un repas, je ne peux plus voir de la nourriture. » Pourquoi est-il si facile de faire ces choses? Parce qu'elles font partie de notre nature. Pratiquer la vérité de Dieu fait qu'elle devient notre nature. Si vous pratiquez la vérité, cela ne deviendra pas seulement une partie de votre nature, mais cela vous aidera aussi à faire face à toutes les pressions dans votre vie. Je répète, si vous pratiquez la vérité, cela ne deviendra pas seulement une partie de votre nature, mais cela vous aidera aussi à faire face à toutes les pressions dans votre vie. Jésus est venu pour nous apporter la vérité, celle qui fait face à toutes les pressions dans la vie. Savez-vous pourquoi autant de croyants, de chrétiens, sont désespérés? Parce que lorsqu'ils apprennent à pratiquer la vérité, il arrive un moment où, face aux pressions, ils oublient la bonne habitude. Alors ils tombent dans le découragement. Soit ils n'ont pas encore bien exercé la vérité, soit ils ont mal utilisé cette vérité dans leur propre vie. Nous allons entendre la phrase suivante plusieurs fois dans ce séminaire. Le fait de pratiquer un exercice ne fait pas de nous des maîtres. Le fait de pratiquer l'exercice ne fait pas de nous des maîtres. Il y a beaucoup de petits mensonges comme celui-ci dans la vie. Le fait de pratiquer une vérité ne nous rend pas parfaits, mais rend ce que nous exerçons permanent. Le fait de pratiquer une vérité ne nous rend pas parfaits, mais rend ce que nous exerçons, que nous pratiquons, permanent. Si vous pratiquez la mauvaise chose, la mauvaise habitude, alors vous allez avoir la mauvaise habitude dans votre vie. Elle va devenir permanente. Nous allons parler de la manière dont nous devons apprendre à pratiquer la vérité afin que cela marche. Laissez-moi vous poser une question. Quelles sont les choses qui vous effrayent dans la vie? Est-ce que je peux vous dire pourquoi vous êtes effrayé? Je crois que c'est parce que vous avez peur que ce que vous savez ne tienne pas le coup en face des pressions. On n'a pas peur d'une chose qu'on peut maîtriser. Réfléchissez-y. Nous sommes effrayés lorsque nous pensons que nous ne maîtrisons pas la question ou la situation. Êtes-vous effrayé devant la mort? Est-ce que vous avez ou est-ce que tu as peur de la mort de celui ou de celle que tu aimes? As-tu peur de la souffrance? De quoi as-tu peur? Nous sommes effrayés, nous avons peur des choses que nous pensons ne pas pouvoir maîtriser ou devant les situations qui nous ont tenus en échec jusqu'à aujourd'hui. Elles nous ont apporté tellement de souffrance que nous avons peur de revivre le même genre de situation, d'en être à nouveau victimes. Et puis nous voulons aussi parler de la manière de maîtriser l'ennemi ou les ennemis. Jésus dit « L'ennemi vient, mais il ne trouve rien en moi. Soyez plein de courage, car j'ai vaincu le monde. » C'est la volonté de Dieu que nous vainquions le monde. La question est alors la suivante. Croyez-vous cela? Et si vous ne le croyez pas, je sais pourquoi vous n'y croyez pas. parce que vous avez vécu des situations qui vous ont submergé. C'est de cela que nous allons parler pendant ces jours. D'accord ? Outils spirituels et dons spirituels. Nous allons parler de la manière de pratiquer la vérité. Je ne me considère pas comme un expert, mais je suis certainement un débutant avancé. Les vérités dont nous allons parler maintenant sont systématiques. Chaque vérité repose sur la vérité qui l'a précédée. Nous lisons dans Proverbe 8 que nous sommes appelés à chercher la sagesse par-dessus tout. Je ne suis pas un enseignant qui connaisse les langues anciennes. Je connais quelques mots et le mot traduit par « sagesse ». Le mot et le thème de la sagesse revient tout au long de la lecture des proverbes. Savez-vous ce que le mot « sagesse » veut littéralement dire? Cela va vous surprendre. Le mot hébreu pour sagesse signifie faculté, talent. En tant que chrétiens, nous avons parfois des pensées vraiment spéciales. Nous croyons parfois que si Dieu est dans notre vie, nous ne devons plus rien entreprendre et exercer de particulier, de peur qu'en entreprenant, nous ne fassions des œuvres. Le mot sagesse veut dire savoir-faire. Et le mot instruction signifie discipline. Chaque fois que vous lirez le mot sagesse et instruction, vous pourrez lire les mots savoir-faire et discipline. Nous allons aborder quelques concepts théologiques, pas de la manière dont les théologiens le feraient, mais plus simplement comme des gens normaux, comme vous et moi. Je ne dis pas que les théologiens sont anormaux, mais ils sont parfois un peu étranges. La première question est donc, pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Ou qu'avait-il en pensée quand il t'a créé? La plupart des croyants disent « Dieu m'a créé afin qu'il puisse me sauver et m'enlever et me prendre un jour au ciel. » Alors quand tu lui poses la question « Qu'y a-t-il de si merveilleux au ciel ?» La première réponse qu'on va te donner souvent, c'est que c'est déjà mieux que l'enfer, parce qu'il y a l'air conditionné. Non, je ris. Et deuxièmement, c'est un village pour les retraités, où je ne devrais plus jamais travailler, je ne devrais plus jamais prendre de décision, je n'aurai plus jamais besoin d'être responsable, parce que ce sera impossible de commettre un péché au ciel. Ah, certainement qu'il y aura encore beaucoup de péchés en enfer, mais au ciel, ça va être parfait. Encore un autre bon point pour le ciel, c'est que j'aurai même des ailes. Je vais pouvoir voler. Pourquoi est-ce que je voudrais voler? Parce que même au ciel, ça risque d'être un peu ennuyeux. Parce qu'après avoir mis mes pantoufles en or et parcouru toutes les rues d'or, j'aurais vécu pour quelques milliers d'années dans ma maison. Je t'aurais rendu visite dans ta maison. Tu auras partagé ton témoignage déjà 300 ou 400 fois avec moi. Je serais certainement capable de dire « Eh ». C'est peut-être pour cela que Dieu va nous donner des ailes. Afin que, quand nous nous ennuierons, nous puissions nous envoler pour un moment. Puis nous pourrons atterrir dans notre rocking chair pour nous balancer doucement et raconter encore et encore notre témoignage. Peut-être penses-tu que tu as été sauvé pour aller au ciel, parce que tu aimes la musique, et tu vas être heureux parce que tu vas pouvoir chanter tout le long. Crois-tu peut-être que Dieu a un problème avec son ego parce qu'il t'a créé pour qu'un jour tu puisses être devant son trône avec les autres tout autour de toi pour le louer? Mais si c'était ça, je ne suis pas sûre qu'il ait un bon goût pour la musique parce que j'ai entendu certains d'entre vous chanter, ce n'est pas toujours très juste. Peut-être espères-tu que le jour où tu mourras, tu auras une voix comme Pavarotti? Je n'en suis pas sûre. Et je ne crois pas non plus que Dieu ait le moindre problème avec son ego. Je ne crois pas qu'il nous a créés pour que nous le chantions durant toute l'éternité. Il aurait peut-être lui-même le désir de s'en aller un moment, changer d'air. Naturellement, ceci est risible. Et nous en rions ensemble. Mais parfois, nous croyants sommes vraiment insensés. Nous agissons comme si Dieu n'était qu'un enfant. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Pourquoi Dieu nous a-t-il créé? Parce qu'il veut être en communion avec toi, avec nous. Il veut travailler avec toi, avec nous. Il veut créer avec toi. Il veut te voir vous voir avoir de la joie dans la vie. Il veut construire des choses avec toi. Il veut expérimenter la victoire avec toi, comme tous les parents normaux. Tous les parents en bonne santé désirent avoir du plaisir avec leurs propres enfants dans la vie. D'où croyez-vous que tous les parents prennent cette pensée? De l'ennemi? D'un livre de psychologie? Non, je ne le pense pas. Dieu a mis dans le cœur des parents en bonne santé quelque chose de ce qu'il a dans son propre cœur. Paul dit dans la lettre aux Philippiens 3, verset 12, qu'il a une passion dans le cœur. Et il dit, voilà ma passion. Je veux découvrir ce qu'il y avait dans la pensée de Dieu quand il m'a créé. Je veux comprendre, saisir ce pourquoi j'ai été créé. Je me demande combien de temps chacun de vous a déjà pris pour se poser cette question au Père. Pourquoi m'as-tu créé? Qu'est-ce qu'il y avait en moi que tu aimes? Qu'est-ce qu'il y a en moi que tu aimes, que tu désires voir? Et si votre réponse est « pour lui obéir », alors vous n'avez pas tout compris. Vous n'avez pas compris. Bien sûr, le Père veut que nous obéissions. Toute la vie commence avec l'obéissance. Cependant, son but n'est pas que tu sois un robot, que nous soyons des robots ou seulement des personnes qui obéissent. Son but est que tu commences, que vous commenciez à découvrir la raison pour laquelle il vous a créé. Je me souviens lorsque, dans le film Chariot de feu, Eric Liddell dit « Dieu a fait de moi quelqu'un de rapide et je sens la joie de Dieu lorsque je cours ». C'est une parole très puissante, une des plus fortes que j'ai jamais entendues. En quoi sens-tu la joie de Dieu? Dieu t'a-t-il créé pour sa joie afin que tu lui apportes de la joie? Oui, et tu as aussi été créé pour gouverner avec le Christ. Paul nous dit dans Romains 8, 7 que nous sommes co-héritiers avec Christ et appelés à gouverner avec le Christ. Abordons une autre question. D'où vient la souffrance? La souffrance est une conséquence de la chute. Nous sommes tous déchus. Et voici une vérité libératrice. Quoi que ce soit qui est faux chez l'autre, je le trouve aussi chez moi ou en moi. Lorsque vous avez compris cela, vous ne vous laissez plus aller à juger ou à critiquer les autres. Quels que soient les péchés que vous voyez dans votre prochain, il se trouve aussi un peu, au moins, en vous. Des amis qui travaillent en médecine m'ont dit que chacun de nous a le cancer. Oui, chacun de nous a un virus, chacun de nous est porteur de maladie. Vous rendez-vous compte? Chacun a le cancer. L'important, c'est de savoir quelle est la capacité de ton système immunitaire. Tous, nous avons péché. Nous péchons simplement à un degré plus ou moins fort dans un domaine ou un autre. Si tu juges les autres pour des péchés que tu n'as personnellement jamais commis, il y a la possibilité que si tu avais été dans la même situation que ton frère ou ta sœur, tu les aies commis. Donc, ce qui est en l'un d'entre nous se trouve en chacun de nous. Quelle est la capacité de notre système immunitaire? Quelle est ta ou notre capacité de réagir? Quelle est la force, la résistance, la santé de ton système immunitaire en Christ? Quel avantage pouvons-nous tirer de la souffrance? Nous entendons souvent dire, comment un Dieu d'amour peut-il permettre autant de souffrance? La réponse est relativement facile. La souffrance nous informe quand quelque chose ne fonctionne pas comme cela devrait dans notre vie. La souffrance est comme un nerf dans notre corps. Quand quelque chose ne fonctionne pas, cela fait mal. La pire des choses qui puissent arriver, c'est que tes nerfs ne réagissent plus, car alors tu n'aurais plus la possibilité de savoir si tu es en bonne santé ou malade. La souffrance de la vie fonctionne de la même manière dans notre vie. La souffrance révèle quand quelque chose ne tourne pas rond. C'est peut-être quelque chose que nous avons fait. C'est peut-être quelque chose que quelqu'un nous a fait. La souffrance révèle le péché. Sans souffrance, nous sommes incapables d'identifier nos péchés. Lorsque quelqu'un nous blesse, c'est comme si on nous donnait un coup dans les côtes. Cela brise nos côtes, tes côtes. Et si on ne te soigne pas, tu vas clopin-clopin, souffrant. Comme je suis pasteur, je m'occupe de personnes. comme un bon nombre d'entre vous, je peux voir quand des personnes souffrent en face de moi. Qui d'entre vous pense que Jésus-Christ avait un regard comme un appareil de radiographie? Il pouvait voir exactement où chacun en était. Nous pouvons le voir dans le regard les uns des autres. Et si nous savons écouter, si nous apprenons à écouter, nous pouvons l'entendre dans la voix des gens, même quand ils font semblant d'être heureux. Vous entendez la souffrance et vous pouvez voir la souffrance, vous pouvez la voir sur le visage et dans le corps. Lorsque nous souffrons, nous ne pouvons pas apprendre. Pourquoi? Parce que pour apprendre, je dois être ouvert, nous devons être ouverts. Je ne peux pas apprendre et en même temps être recroquevillé sur moi-même. Cependant, lorsque je souffre, je suis comme recroquevillé sur moi-même. Je suis frigorifié, glacé intérieurement dans ma souffrance. La question n'est donc pas « Quel âge as-tu dans le Seigneur ?» Mais la question est « Est-ce que tu es encore ouvert dans le Seigneur ?» Je connais beaucoup de chrétiens qui sont restés coincés à quelque chose, une expérience qui leur est arrivée il y a une trentaine d'années. Savez-vous quoi? Ils ont très peu grandi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas surmonté une souffrance ou des blessures qui leur sont arrivées. La souffrance peut être vécue de manière encore plus compliquée. Elle peut former un paradigme, c'est-à-dire un schéma à travers lequel on va regarder et réagir par rapport aux autres. On nomme cela de la projection. Un exemple, même si tu n'as pas du tout l'intention de me blesser, je vais réagir contre toi comme si tu m'avais ou allais me blesser. Je ne vais donc pas pouvoir m'ouvrir ou alors seulement superficiellement. Il y a parmi vous des personnes qui ont souffert et qui n'ont pas pu surmonter ces souffrances. Jusqu'à ce que vous ayez surmonté ces souffrances, vous serez incapable d'avoir des relations profondes avec d'autres. Cela n'est pas une théorie, c'est un fait. Je répète, jusqu'à ce que vous ayez surmonté ces souffrances, vous serez incapable d'avoir des relations profondes avec d'autres. C'est un fait. Une des raisons pour lesquelles nous devons surmonter les blessures de nos vies, c'est parce que lorsque nous sommes blessés, nous arrêtons de grandir. C'est exactement ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut que nous arrêtions de grandir. Dans Genèse 4, 7, Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. C'est à toi d'en être le maître. Quel péché apprenez-vous actuellement à maîtriser? Nous n'expérimentons pas la joie dans notre vie jusqu'à ce que nous nous battions ou jusqu'à ce que nous battions ce qui nous a battu ou abattu jusqu'à aujourd'hui. Nous reviendrons encore sur ce thème. Alors que nous finissons cette première leçon, j'aimerais encore vous décrire les 7 principes que nous allons apprendre à pratiquer. Ce que je partage ici avec vous est un entraînement. De la même manière que vous devez vous entraîner si vous êtes un musicien ou un sportif. Si vous étiez un sportif, je vous donnerais des exercices à faire avec des haltères et autres. Je vous garantis que si vous faites les exercices, vous allez grandir, c'est certain, il n'y a pas de doute. Comment puis-je savoir cela? À cause de la loi des semailles et moissons. Si tu sèmes la vérité, tu moissonneras la vérité. Si tu sèmes la vérité, tu moissonneras la vérité. Le premier principe, la première vérité que nous allons pratiquer, c'est choisir la vie et non la mort. Le deuxième principe que nous allons pratiquer, il va être l'affirmation constante du travail de Dieu dans ma vie, c'est utiliser chaque situation de la manière dont Dieu l'a prévue pour nous. Le troisième principe que nous allons pratiquer, c'est semer de manière stratégique afin de pouvoir moissonner. C'est-à-dire tout planifier avec Dieu, même les détails de notre vie. Le quatrième principe que nous allons pratiquer, c'est renoncer à l'amertume. C'est probablement l'ennemi le plus dangereux de notre vie. Le cinquième principe que nous allons pratiquer, c'est reconnaître que Dieu nous a appelés à être intendants, gouverneurs de la terre. Le sixième principe que nous allons pratiquer, c'est Dieu nous a donné des coachs, des modèles, qui vont nous aider à atteindre de nouveaux niveaux de maturité. Le septième principe que nous allons pratiquer, c'est vivre pratiquement la vie d'un guerrier et d'un adorateur. Pour finir, j'aimerais dire que le but de ce séminaire, c'est de vous aider à vivre dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ceci doit donc être notre plus grande préoccupation. Lorsqu'il nous a appris à prier, il nous a appris à dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu ne prie pas pour que nous allions au ciel. Il prie afin que la vie du ciel vienne sur la terre. Alors permettez-moi de vous poser une question un peu difficile. Quelle part de vie du ciel vient sur la terre à travers toi et moi? Quelle part de vie du ciel vient sur la terre à travers toi et moi? C'est cela qu'un chrétien est appelé à vivre. Nous sommes comme une porte ouverte, un canal par lequel le royaume de Dieu peut venir sur la terre. Nous ne pouvons pas le faire si nous sommes amers, si nous tournons en rond, dans la souffrance, les blessures et le jugement. Nous ne pouvons pas vivre dans le royaume de Dieu si nous vivons d'une souffrance à l'autre. Nous n'arriverons jamais à atteindre le point que Dieu a prévu pour nous. Dieu met en jeu, comme un coach dans un match, tous les joueurs qui sont en forme. Si tu dis actuellement, « Seigneur, pourquoi est-ce que je reste bloqué ici? Pourquoi ne suis-je pas plus efficace? Pourquoi ne peux-tu pas m'utiliser comme j'aimerais que tu puisses m'utiliser ?» La réponse est simple. C'est parce que tu n'es pas en forme. Quoi que ce soit que tu désires faire, tu n'es pas encore assez en forme. Combien d'entre vous savent que Dieu n'a pas encore assez de collaborateurs? Pourquoi? Parce que les saints ne sont pas en forme, malheureusement. Il ne veut pas les utiliser dans le match car s'il les laissait sortir sur le terrain, ils recevraient des coups, ils seraient blessés et ils risqueraient de blesser les autres. Nous, nous voulons ensemble choisir d'être en pleine forme pour le Seigneur. Nous sommes appelés à atteindre un bon niveau de maturité personnelle, niveau auquel nous devenons capables d'aider les autres. Une des choses que nous allons découvrir dans ce séminaire, c'est que Dieu a permis que tu vives, que vous viviez certaines souffrances, afin que par la suite vous puissiez aider d'autres dans ces souffrances. Ceci est réellement important. C'est un point critique. Ce qui t'a blessé, qui t'a fait souffrir, Dieu veut le transformer en bénédiction pour toi d'une part, et il veut qu'avec ce que tu as appris, tu puisses aider d'autres. Combien d'entre vous savent que les personnes qui ont été blessées blessent les autres, à moins d'avoir appris à gérer les blessures passées différemment, et à moins de prendre de nouvelles habitudes de vie? La dernière chose que je veux dire est tirée d'un texte de 2 Corinthiens 7, versets 9 et 10. Paul nous dit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » La repentance du monde, la condamnation, n'a jamais aidé personne. Ce que je ne voudrais vraiment pas, c'est que quelqu'un se sente condamné ici. Se sentir mal ou se sentir condamné ne va pas t'aider et ne t'a jamais aidé. Te sentir mal ou condamné blesse parce que tu as le sentiment d'être impuissant. Et si tu te culpabilises, tu vas encore blesser les autres. Dans cet entraînement, nous allons donc exercer l'auto-confrontation. Nous prions que le Saint-Esprit accorde à chacun, à chacune d'entre nous, cette capacité de nous confronter nous-mêmes. Lorsque nous nous confrontons en Dieu, il nous montre comment changer. Il nous montre quelle vérité pratiquer pour que nous soyons sur le chemin, avec lui, en faisant l'apprentissage d'une vie stratégique. La vérité, ça marche. Si nous pratiquons la vérité, alors cette vérité va fonctionner dans notre vie. Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dieu est glorifié par des gens libres. Le but de ce séminaire est de vous aider à être et à vivre dans la liberté de Dieu. Amen.